Le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Relancer l'Union européenne après le Brexit et ne pas se laisser tenter par les populistes europhobes, ce sont les grandes lignes du discours du président de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker va prendre la parole d'un instant à l'autre devant les eurodéputés à Strasbourg pour son traditionnel discours sur l'état de l'Union européenne, Quentin Dickinson.
Modelé au moins dans son intitulé sur une pratique politique américaine, ce discours sur l'état de l'Union constitue depuis 7 ans une obligation pour le président de la Commission européenne. Traditionnellement, c'était un exercice assez conventionnel, fait de constats, de rappels et d'intentions. Mais Jean-Claude Juncker en a fait une tribune très personnelle, catalogue intime de ses craintes et de ses convictions. Chacun aura remarqué à pareille époque l'an dernier la gravité de ton de celui qui s'estimait être à la tête de la Commission de la dernière chance. Le référendum du Brexit, intervenu moins de 3 mois auparavant, était là pour alimenter les sombres pensées que ruminait M. Juncker. Cette année, celui-ci devrait se montrer prudemment serein, les indicateurs économiques s'améliorent, lentement l'emploi se redresse, et le départ programmé des Britanniques autorise à rêver d'une autre Europe que celle que Londres freinait depuis 40 ans. C'est là que Jean-Claude Juncker voudra surprendre, en proposant un scénario innovant et mobilisateur, un canevas de relance issu du grand nombre de concertations menées tambour battant et tous azimuts depuis le début de cette année. Au menu d'un discours d'une demi-heure environ, devrait figurer une charge personnelle contre les groupes et partis politiques qui perçoivent d'importantes subventions européennes dont ils se servent pour faire de la propagande anti-européenne.
Quentin Dickinson pour France Culture. Le Bangladesh a découvert ce matin 7 nouveaux corps de réfugiés Rohingyas morts dans des naufrages de bateaux en fuyant les violences en Birmanie. 99 morts naufragés depuis le 25 août dernier et 370 000 hommes, femmes et enfants qui ont réussi à se réfugier au Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres de la planète qui a du mal à faire face à ces nouvelles arrivées. L'ONU se prononce ce matin en faveur d'une hausse massive de l'aide aux Rohingyas, population majoritairement musulmane, mais les ONG, elles, n'ont pas accès aux populations les plus vulnérables. Un sujet sur lequel la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi ne reviendra pas aux Nations Unies. La prix Nobel de la paix refuse de participer à l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte hier à New York. En France, le Premier ministre Édouard Philippe l'assure, la baisse des APL envisagée par le gouvernement dans le logement social n'aura aucun impact pour les bénéficiaires, la baisse étant compensée par une baisse des loyers identiques. Et par ailleurs, le gouvernement veut stabiliser le taux du livret A dont les fonds servent justement à financer en grande partie la construction de logements HLM. Le livret A affiche actuellement son plus bas taux historique, 0,75%. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui se dit encore attentif à la contestation sociale, mais qui ne déviera pas sur les ordonnances du Code du travail, réforme annoncée par le candidat Macron, vainqueur de la présidentielle. Où est la démocratie si l'on conteste systématiquement la majorité ? S'interroge Édouard Philippe, le Premier ministre qui estime encore ce matin que les manifestations d'hier en France ont traduit pour beaucoup un besoin d'explication. La colère des ultra-orthodoxes en Israël, la Cour suprême a annulé hier un texte qui exempte ces ultra-orthodoxes du service militaire. 10% de la population est concernée, soit 800 000 personnes. Les ultra-orthodoxes ont toujours refusé de servir dans les rangs. Et la décision de la Cour suprême rencontre déjà de fortes réactions. La correspondance à Jérusalem de Marie Semelin.
À l'annonce de la décision, le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, lui-même juif ultra-orthodoxe portant le traditionnel costume et le chapeau noir, a dénoncé la déconnexion entre la Cour suprême et le peuple juif, un peuple uni selon lui à travers les générations et les persécutions par l'étude de la Torah. Ici, le service militaire est obligatoire pour les femmes et les hommes. Seule la minorité arabe du pays en est dispensée, ainsi que les juifs ultra-orthodoxes. Ils consacrent une grande partie de leur vie à l'étude des textes religieux et pour cette communauté, l'enrôlement serait un contact avec la société laïque dont ils ne veulent pas. Une frange des ultra-orthodoxes ne reconnaît pas non plus la légitimité de l'État d'Israël et donc de son armée. Plusieurs gouvernements ont tenté de mettre fin à cette dispense de service militaire, considérant qu'il devait s'intégrer et participer à l'effort national. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou tente, lui, de la maintenir puisqu'il a besoin des partis religieux pour faire tenir sa coalition. Mais saisie par une association pour l'égalité des droits, la Cour suprême a abrogé la loi qui les en exempte, la jugeant discriminatoire face au reste de la population israélienne. Une abrogation qui ne rentrera en vigueur que d'ici un an, laissant le temps au gouvernement d'éventuellement la modifier. En attendant, ce seront probablement des milliers de juifs ultra-orthodoxes qui vont défiler dans les rues de Jérusalem, comme ils le font à chaque fois que l'État essaie de les enrôler.
Marie Semelin à Jérusalem pour France Culture. Après un siècle d'attente et d'échecs cuisants, Paris doit être officiellement désigné aujourd'hui pour accueillir les Jeux Olympiques 2024. Le Comité international olympique se réunit à Lima et au terme d'un vote, Los Angeles doit elle aussi se voir confier les JO d'été, ceux de 2028. Le temps de ce mercredi 13 septembre, ensoleillé uniquement sur l'extrême sud de l'Hexagone. Le temps couvert et venteux sur tout le reste du pays. 7 départements du nord-est sont placés en vigilance orange à partir de ce soir. Les températures sont comprises ce matin entre 10 et 15 degrés en général, jusqu'à 18 près de la Méditerranée. Cet après-midi, il fera entre 17 et 24 degrés sur les deux tiers nord du pays, 25 à 28 plus au sud. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Camille Magnard.